10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Et bien voilà, nouvel horaire, nouveau programme, non, pas du tout. Alors, nouvel horaire, oui, parce qu'on bascule dans le cadre de la grille du Ramadan, donc au lieu de 19h, 20h, et bien désormais, notez bien ce tout nouveau rendez-vous, vous le savez, et bien c'est 10h, 11h. Au sommaire de cette émission, nous allons parler d'impunité, de bavure policière, mais également aussi de, vous savez, de cette affaire concernant Claude Jean-Pierre, visage de la lutte contre les brutalités policières. Souvenez-vous, c'est un peu le George Floyd français, nous en parlerons dans une poignée de minutes, et il se trouve que les invités sont avec nous sur le plateau, ils sont présents avec nous, Fatia et Christophe, pour nous parler de leur dossier aujourd'hui. Qu'en est-il du papa de Fatia aujourd'hui dans cette affaire? Ensuite, après les débattants, les influenceurs reviendront pour confronter leur point de vue sur les sujets qui ont retenu notre attention. On reviendra sur la campagne, ça y est, c'est lancé, la campagne des élections européennes. Ce va et tout ce week-end, c'était le défilé des poids lourds entre Renaissance, entre Éric Zemmour, entre le reste, la gauche, entre aussi le Rassemblement National. Bref, autant vous dire que l'Europe s'inquiète. Je dis ça parce que ça mérite une clochette quand même. Oui, vous savez pourquoi? Parce qu'elle va basculer à l'extrême droite. Elle risque de basculer à l'extrême droite. Ouais, changement de cycle paraît-il. Mais bon, on va en parler, hein. C'est bien facile de dire ça. Fin de vie. Emmanuel Macron se prononce en faveur d'une aide à mourir. Ah, ça pose question, les amis, hein. Ça pose question parce que beaucoup, évidemment, se soulèvent pour dire ce projet de loi risque de faire une grosse polémique. Nous parlerons aussi des États-Unis. Les États-Unis qui mettent la pression sur Israël, mais surtout l'ONU qui considère que les colonies israéliennes, eh bien, ça relève du crime de guerre. Nous en parlerons dans une poignée de minutes. Vous savez, Philippe, Fabien Roussel, il a fait une petite sortie. Il annonce qu'il ne votera pas contre une série de, évidemment, de mesures. Mais sauf que là, il regrette profondément, vous savez quoi ? Il a fait beaucoup de déclarations sur Israël, mais aussi sur l'Europe, mais aussi sur l'Ukraine. Il a fait un tacle sur l'Ukraine, une petite sortie, où il tacle Emmanuel Macron, le président de la République. On en parlera tout à l'heure. Mais vous aussi, au 0153 48 3000, c'est votre numéro, il ne change pas. Vous pouvez intervenir en toute liberté d'expression. Et puis on viendra aussi sur le billet d'humeur de Michel Taube tout à l'heure, à 10h50 précisément. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
L'interview avec nos invités aujourd'hui, c'est Fatia. Bonjour Fatia.
Bonjour Adil.
Tirez bien le micro vers vous, nous sommes en direct. Comment ça va tout d'abord?
Très bien, merci.
Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu ici parler de votre dossier, de votre papa.
Merci à vous de nous recevoir.
Vous êtes venu avec Christophe. Christophe, bonjour.
Bonjour Adil, bonjour aux auditeurs, aux auditrices.
Christophe, qu'est-ce qui représente pour vous Jean-Claude?
Ah, c'est mon beau-père.
Le beau-père. Merci d'être avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation. En Guadeloupe, c'est la colère qui monte au sujet de la mort d'un retraité interpellé. C'est celui, évidemment, interpellé par les gendarmes. C'est votre papa, Fatia. Peut-on revenir brièvement sur cette affaire concernant votre père avant de parler de la décision du parquet, mais surtout du policier aujourd'hui qui a été promu?
Tout à fait. Donc, mon papa, c'était un jeune retraité de 67 ans qui habitait en Guadeloupe. Un 21 novembre, malheureusement, il aura croisé la route de deux gendarmes. Deux gendarmes qui opèrent un simple contrôle routier. À la suite de ce contrôle, malheureusement, il sera hospitalisé au CHU de Pointe-à-Pitre, où on va lui déceler deux vertèbres cassées, une compression de la moelle épinière et un état de tétraplégie. C'est une opération qui s'est passée très violemment. Mon père s'est fait extirper de son véhicule par ses deux agents de la gendarmerie. Mmh. Et donc,
Quel âge avait-il ?
67 ans.
C'est jeune,
67 hein. ans, quelqu'un à la retraite, quelqu'un de calme, quelqu'un de non-violent, qui aimait rendre service à sa communauté, qui aimait sa famille, qui était respectueux, qui a travaillé toute sa vie respectueusement, qui a gagné sa vie pour élever sa fille, moi je suis sa fille, pour vraiment tenir son foyer. Et malheureusement, il aura croisé la route de deux personnes qu'il ne fallait pas ce 21 novembre, et il nous quittera 12 jours plus tard, le 3 décembre. Et depuis cette date, Christophe et moi et la famille Jean-Pierre, on mène ce lourd combat. Ce combat pour la justice et pour la vérité.
Vous êtes accompagné dans ce lourd combat, justement, lorsque vous en parlez? Est-ce que vous êtes accompagné par des associations? Vous savez qu'aujourd'hui, qu'il existe des associations qui accompagnent, justement, les familles. Est-ce que vous avez interpellé ces associations? Elles sont nombreuses, de toute façon.
Alors, ce qui est bien en Guadeloupe, c'est qu'on a une telle solidarité. On a un peuple qui est résilient et, en fait, on n'a pas besoin d'appeler à la solidarité. Ce qu'on a eu dans notre combat, c'est que, dès le décès de mon père, on a un collectif d'une quinzaine d'associations culturelles, politiques, qui s'est formé et qui nous soutient aujourd'hui. Et on a aussi des familles de victimes qui sont à nos côtés. Et c'est comme ça qu'on tient. On arrive à diffuser les informations de cette façon. On a aussi une arme qui est quand même importante, c'est les médias. On a les médias qui nous permettent d'avoir la parole. On a aussi les réseaux sociaux par lesquels on diffuse beaucoup de nos informations. Donc la solidarité, l'entraide, c'est quelque chose qui ne nous manque pas dans notre combat et c'est important.
Dans ce combat, justement, et continue, on l'a bien compris. Fatia, vous, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Comment vous vivez avec le recul la mort de votre père, avec ses graves traumatismes qu'il a subi? Vous venez de le dire il y a un instant, il y a quelques minutes, lors de ce fameux contrôle de gendarmerie. Fatia, aujourd'hui, avec le recul, comment vous le vivez tout ça?
Alors aujourd'hui, c'est sûr que je suis une personne complètement différente. Le 3 décembre 2020, j'ai perdu mon papa d'une façon violente. Et en fait, ça nous change qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Je suis devenue militante malgré moi, puisque le combat que je dois mener, je suis obligée de le mener pour l'honneur de mon papa. Et en fait, c'est un deuil qu'on ne peut pas faire. Un deuil qu'on ne peut pas faire parce qu'on a ce sentiment d'injustice qui nous traverse, qui reste en nous, cette colère qu'on essaie de transformer et qu'on transforme, on est obligé de le faire. Et je suis une femme complètement différente. C'est la Fatia de 2020 n'est pas la même qu'aujourd'hui, parce que les épreuves qu'on a traversées nous renforcent.
Renforce la mort de votre père, évidemment, a suscité chez vous cet engagement.
C'est ça, tout à fait.
A réveillé en tout cas chez vous cet engagement.
Ouais. Quand on vient de la Guadeloupe, on a déjà cette chose en nous, puisqu'on est un peuple qui a connu déjà beaucoup de massacres, beaucoup de malheurs, beaucoup d'inégalités, beaucoup d'injustices. Donc on a ça en nous. Et en fait, il suffit d'une chose pour que cette flamme se réveille.
Et c'est quoi cette flamme? C'est la lutte contre les violences policières?
Alors,
qui
c'est
vous
la
anime,
lutte tout court.
Qui vous habite?
C'est la lutte tout court.
La lutte tout court.
La lutte contre
toutes les violences.
Exactement,
toutes les violences.
Toutes les inégalités. Parce que les violences d'État, on les connaît en Guadeloupe. Quand on a un peuple qui crie pour ses droits, faut savoir qu'on a eu chez nous en plusieurs décennies, en l'espace de plusieurs décennies, plusieurs massacres. On a un peuple qui crie à l'eau. Quelque chose de tout simple. On est en France. Faut rappeler qu'on est en France. Les robinets ne coulent pas forcément dans nos... L'eau ne coule pas forcément dans nos robinets.
Votre compagnon est là.
Oui.
Christophe. Christophe, donc je vais vous donner la parole. Vous êtes venu avec un t-shirt où justement il est inscrit justice, c'est ça?
C'est ça.
Justice pour
Claude Jean-Pierre.
Claude Jean-Pierre, votre beau-père. Alors aujourd'hui, est-ce que vous menez le même combat que votre compagne à ses côtés?
Bien sûr, c'est ma compagne, donc forcément son combat est également le mien. Donc c'était naturel pour moi de l'accompagner, de faire en sorte que de la protéger également, puisque je pense que c'est aussi le rôle du compagnon d'être aux côtés de sa compagne. On est une famille, Claude c'était mon beau-père, c'était comme un père pour moi. Donc ce qui lui est arrivé nous touche au plus profond de nous-mêmes et tout le reste de la famille. Derrière nous, on est souvent le visage de la lutte, comme Fatia le disait. Mais derrière nous, il y a une famille qui souffre, il y a une famille qui peut pas faire un deuil. Et chacun a ses émotions, chacun les gère du mieux qu'il peut. Donc c'est une proportion du côté humain qui n'est jamais prise en compte dans ce type d'affaires, puisque bien souvent, on a tendance à criminaliser les victimes, on oublie que ce sont des êtres humains, on les déshumanise. Donc nous, on se bat déjà pour les réhumaniser. On se bat également, puisque on trouve que c'est une injustice, personne ne mérite ce genre de traitement, puisqu'on a quand même une vidéosurveillance qui a tout filmé, on montre des violences de la part de personnes qui sont censées faire respecter l'ordre, et ensuite un traitement qui est inhumain, on pose un chapeau sur la tête de Claude alors qu'il est allongé sur le bitume, et le gendarme qui est promu aujourd'hui lui pose le pied sur la tête. Donc à un moment donné, on se demande mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes? Donc nous, ce qu'on demande, c'est un débat contradictoire, tout simplement, une mise en examen de ces personnes qui puissent répondre de nos actes et qui puissent
nous expliquer. Il est comparé d'ailleurs au George Floyd français.
Oui, tout à fait, parce que c'est une pièce maîtresse de notre affaire. Toute la scène a été filmée. Le contrôle intégral a été intégralement filmé, donc on voit tout ce qui s'est passé. Et en fait, on a ce sentiment d'injustice parce qu'il y a une telle impunité dans cette affaire. Aujourd'hui, même avec les images, 3 ans plus tard, on est encore au même point. On a deux agents qui ont mené ce contrôle et qui ont le simple statut de témoin assisté. Même avec des images, on n'a pas de mise en examen. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui.
En Guadeloupe, tout le monde est au courant.
Tout à fait.
Tout le monde s'est mobilisé.
Tout le monde s'est mobilisé, tout le monde s'est levé.
Y compris les artistes.
Tout à fait. On a un soutien qui est quand même unanime. La population, les artistes, les militants, tout le monde nous soutient. Justement, le collectif contre violence à gendarmes qui s'est monté pour nous soutenir le montre. C'est des organisations culturelles, syndicales, c'est des personnes complètement différentes qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui, pour un tel combat, pour l'honneur d'un homme, pour l'honneur d'un Guadeloupéen, arrivent à se mettre ensemble.
Fatia, vous et Christophe, vous manifestez régulièrement, hein, justement, contre le racisme, les violences policières et pénitentiaires.
Oui, bien sûr, c'est important pour nous, puisque cette réalité, en fait, on l'a découverte malgré nous. Et en fait, on s'est rendu compte également que ben ça touche énormément de personnes. Et on se rend compte aussi que ça touche énormément de personnes racisées. Donc, c'est un combat qui est de société. Et en fait, on se pose des questions, mais pourquoi on n'a jamais de réponse politique à ce genre de problème? Donc, nous, on se bat pour nous, mais on se bat également pour les autres, puisque dans ce type d'affaires, on est parfois la voix des sans-voix, puisque beaucoup n'osent pas affronter l'État, n'osent pas affronter l'institution, puisque c'est une telle machine que déjà on a une perte qui est douloureuse, on a un deuil qui est compliqué à faire, donc ensuite il faut se lancer dans des procédures judiciaires qui sont longues, qui sont financièrement éprouvantes. Donc on a beaucoup de mal, mais heureusement on a cette solidarité les uns avec les autres qui subissent ce genre de traumatisme.
Alors justement, parlons de ce policier accusé de bavure aggravée, donc sur Jean-Claude Jean-Pierre. Il a été promu, d'accord. Vous, évidemment, ça vous a fait tout de suite réagir, vous deux. Fatia d'abord, tout d'abord. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui avec votre avocat et qu'est-ce que vous envisagez?
Alors aujourd'hui, on a un collectif de 5 avocats qu'on tient à remercier pour le travail qu'ils mènent. Parce que c'est vrai que la procédure prend du temps parce que la procédure judiciaire est longue. Mais de voir qu'en face de nous, on a en fait un corps qui quand même arrive à donner une promotion, je veux dire donner une promotion à quelqu'un qui a une affaire en cours, c'est un sentiment qu'on peut pas décrire, c'est pas normal pour nous.
Vous voulez pas mélanger, vous voulez pas condamner la police, mais c'est surtout condamner ce qui s'est passé.
Alors, on condamne un acte, on ne condamne pas...
C'est le signalement, les abus, voilà. L'acte.
On condamne l'acte. Les forces de l'ordre, on n'est pas anti-flic, on n'est pas anti-gendarme, ça on le dit toujours. On condamne vraiment l'acte d'un agent à un instant donné. Donc c'est comme dans tous les corps de métier, il y a des bons, il y a des mauvais. Il faut savoir faire le tri, tout simplement.
Christophe ?
Non, et puis ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'en Guadeloupe, on a l'habitude de ce genre de situation. Malheureusement, on a connu une affaire qui est tristement célèbre, l'affaire Charles-Henri-Salin, où on a quand même un gendarme qui a été reconnu coupable, mais acquitté. Donc on a parfois des procédures qui tournent bizarrement quand ça se passe dans les îles. Et puis malheureusement, ce type d'information n'arrive pas forcément sur le continent, dans l'Hexagone. Donc on essaie de porter la voix partout où on passe.
Le policier promu, est-ce que ça provoque pas chez vous, ça confirme pas, en tout cas de nouveau, de vous dire, Fatia et Christophe, qu'il y a dans ces violences policières une impunité, mais surtout, parlons-en, le racisme dans la police.
Ah oui, le racisme dans la police, ça a été prouvé. Faut savoir que les populations racisées sont perpétuellement contrôlées. Perpétuellement, je ne vais pas utiliser le mot massacré, mais on n'en est pas loin, parce que faut voir que les personnes racisées n'ont pas le même traitement, je vais dire, que les personnes non blanches, on va dire. Donc ça, c'est un combat qu'on mène aussi, nous, pour vraiment montrer qu'il y a cette problématique dans la police et dans beaucoup de corps de métier.
Et puis ce ne sont pas des choses qu'on invente, puisque la France a quand même été condamnée par la Cour européenne pour contrôle au faciès. Donc ce sont des réalités qui sont factuelles. Donc nous on le dénonce et on aimerait que ça change justement.
Qu'est-ce que vous souhaitez désormais aujourd'hui? Vous allez continuer à manifester, à faire porter votre voix, je l'ai bien compris. Mais concernant ce policier qui a été promu, qu'est-ce que vous comptez faire? Comment comptez-vous amener votre combat, vous deux, Christophe, Fatia?
Alors nous, il faut savoir qu'on ne lâchera rien. Que tant qu'on n'aura pas de mise en examen, on ne lâchera pas. Il a certes été
promu. Donc c'est d'aller jusqu'au bout.
on va jusqu'au bout. On a commencé ce combat pour l'honneur de mon papa, on ira jusqu'au bout. Donc nous,
vous
on ne lâche pas.
Judiciairement, là, vous parlez.
Judiciairement. Judiciairement, on a eu une tentative de déshumanisation de mon papa. On l'a criminalisé. Et au final, les vidéos sont sorties et on a bien vu que les erreurs ne viennent pas de lui, mais de deux personnes. Et aujourd'hui, l'une de ces deux personnes promues, c'est une inégalité sans nom pour nous.
Christophe ?
Oui, on continuera jusqu'au bout. On s'est lancé pas pour abandonner, pour changer les choses, pour mettre un peu un terme à ce type d'impunité, puisque c'est insupportable et c'est intolérable dans une société, dans une république, tout simplement.
On l'aura compris, donc le combat continue.
On ne lâche pas.
Pour Claude Jean-Pierre, c'est ce qu'on dit ici, on dit tous les soirs, tous les soirs, parce que je suis habituellement le soir, mais on ne lâche rien.
Ah bah oui, il ne faut pas.
Écoutez, Fatia, bon courage, Christophe, bon courage, merci d'avoir été avec nous. Vous nous tenez au courant?
On vous tient au courant,
voilà,
sans
concernant
problème.
Votre papa, Fatia, je tiens à le dire, Claude Jean-Pierre, qui est devenu la visage de la lutte contre les brutalités policières. Hein. Toute la presse, évidemment, le décrit comme tel. On va même jusqu'à dire en Guadeloupe, c'est le George Floyd français. Merci Fatia, bon courage à vous.
Merci beaucoup.
Christophe. On se retrouve dans une poignée de minutes avec les débatteurs. Emmanuel Dupuis, bonjour.
Bonjour.
Augustin Varque, bonjour.
Bonjour.
Karim Aloum, qui est juste derrière moi, bonjour. Eh bien, les débatteurs vont s'emparer de l'actualité avec les élections européennes. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM. Les informés, le face-à-face.
Avec Karim Aloum, bonjour Karim.
Bonjour Adil, bonjour à tous.
Comment ça va ?
Ça va, très bien.
Bon, entrepreneur, mais également aussi journaliste sur les questions de société. Augustin Varque, bonjour, entrepreneur
bonjour.
Également, comment ça va?
Très bien.
À vos côtés, vous avez le président, attention, le boss hein, de l'Ipse.
Une autre responsabilité
Emmanuel
sur les frais du
prix. Comment ça va?
Bah bien.
Ouais.
Comme on a dit,
exactement.
On n'a pas l'habitude le matin avec vous.
Non, le matin, vous n'avez pas l'habitude. C'est vrai.
Ça va être poussif au début.
Vous allez prendre l'habitude un petit peu, voilà, ça va vous réveiller. Ça va. Vous n'avez pas l'habitude, vous avez l'habitude le matin.
Ah, j'ai l'habitude le matin, mais pas avec vous.
Pas avec nous, ouais, c'est vrai. Pas ici, aux informés. Allez, les élections européennes, vous savez quoi, c'est parti. Ça y est, on peut considérer que la campagne a été lancée officiellement.
Absolument.
Durant tout le week-end. Vous savez quoi, ça a été le défilé de tous les poids lourds. Et je vous pose la question clairement, je veux qu'on mette les pieds dans le plat. Il y a ce risque qui est là, présent, qui nous guette. C'est l'extrême droite qui s'empare de l'Europe. Karim Aloum.
Avant, je vais répondre à cette question, mais par contre, je veux...
C'est chaud, chaud.
C'est très chaud même. Je veux me baser sur ce qui s'est passé hier au Portugal.
Oui.
Au Portugal, les élections, on a eu les résultats. Je vous donne ce chiffre.
Droite-droite quand même. Hein.
C'est-à-dire que la gauche avait la majorité absolue. Elle a perdu la moitié de ses... de ce siège, et l'extrême droite a multiplié par 4 le nombre de députés. Par 4, c'est pas par plus 1, plus 2. Par 4, c'est énorme. C'est rare dans l'histoire moderne de trouver un parti politique qui, en bout de 2 ans, est multiplié par 4. Aucun politologue, aucun politicien n'est capable de l'expliquer.
C'est le populisme.
C'est facile, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? La question, elle reste là. On le voit, la montée des mouvements populistes, nationalistes, parce que quand on dit l'extrême droite, de temps en temps...
Vous voyez bien que le discours, il est populiste partout dans l'Europe.
Voilà.
Je vous l'apprends pas.
Hein. Et parce qu'il est de gauche et de droite. Et surtout, ouais. au fait, on assiste à une montée du populisme, à une montée d'un discours facile, et donc les gens comprennent que le discours facile, il est le meilleur. Il n'y a plus de nuances. Les hommes politiques de gauche comme de droite n'apportent plus la nuance. Ils passent, regarde en France, on passe notre journée à critiquer les institutions, à critiquer l'Europe, et puis les Français se disent, donc ces institutions, cette Europe, il faut s'en dégager. Qui le dit? C'est l'extrême droite. Donc tout le monde participe, tout le monde travaille pour l'extrême droite. Je dis bien tout le monde.
C'est chaud de dire ça quand même.
Non, attends.
Que la gauche participe à l'extrême droite, que la droite participe à l'extrême droite.
Leur pratique quotidienne...
Bah on va en parler.
Voilà, leur pratique quotidienne... Ouais. Arrive à les faire monter. Comment peut-on expliquer que M. Bardella, responsable de l'Assemblée nationale, il vient d'un sondage de CPVO, d'Ipsos qui est un truc de qualité, il est à 31%.
Un peu plus maintenant.
Aujourd'hui, c'est.
Juste une phrase.
Et pourquoi?
Oui.
On assiste une élection continentale, mais au fait, on la transforme à une élection nationale.
Mais bien sûr.
Voilà, une élection nationale. Donc, c'est... au fait, pourquoi on fait une élection continentale si c'est pour juste parler d'immigration, parler de président de la République, parler de la majorité ou bien de Rassemblement national. Il partit de la présidence, la majorité présidentielle, participe aussi à ce débat. Ils veulent à tout prix cristalliser le combat contre
le Rassemblement national de capitaliser sur le désaffection populaire des partis traditionnels. Ils capitalisent. On ne peut pas leur reprocher qu'ils veulent nationaliser le scrutin. On ne peut pas leur reprocher ça. Après, il y a une lame de fond. En effet, c'est qu'en Europe, il y a tous les pays qui commencent à s'emparer des sujets un peu identitaires. Parce qu'il y a ça derrière ça. C'est les sujets identitaires des pays. C'est les frontières. C'est l'identité du pays. La Hollande, l'Allemagne, l'immigration, voilà, l'Espagne, la Portugal, l'Italie déjà depuis longtemps.
L'Allemagne aussi.
L'Allemagne.
J'étais très près. Hein.
Donc, c'est quoi le moteur?
Ce qui est inquiétant, c'est que les partis.
Le moteur, c'est l'immigration, l'insécurité et l'islamisme.
Oui.
Tant qu'on n'aborde pas ces trois sujets.
Eh bien, il faut l'aborder. On prêche dans le désert.
Les gens qui veulent combattre l'extrême droite sont abordés. L'insécurité, l'immigration incontrôlée et l'islamisme, je leur dis, vous prêchez dans le désert. De gauche comme de droite, comme la majorité présidentielle. Vous prêchez dans le désert, vous faites rien. Ils peuvent même s'arrêter sans travailler et le Rassemblement national va gagner.
Emmanuel Dupuy, on ne l'a pas entendu. Emmanuel, alors,
je crois que notre camarade n'est pas terminé.
Ouais. Non, il est terminé. Bon. Mais il peut revenir.
Je suis un petit peu plus modéré. Premièrement, ce qui se passe un petit peu en Europe doit être, et nous-mêmes nous en sommes piégés, où ce débat est piégeant, on essaye de généraliser. Chaque pays a son agenda. Il faut savoir pourquoi Antonio Costa a démissionné, il faut savoir pourquoi la gauche s'est ratatinée. Des problèmes de corruption, pas seulement des problèmes d'immigration. Donc moi, je suis partisan de pas trop généraliser en disant c'est une fatalité, c'est une lame de fond. C'est une lame de fond parce que dans tous les pays, les partis au pouvoir ont failli pour des raisons spécifiques. Pourquoi est-ce que l'extrême droite est arrivée au pouvoir en Europe ? Parce qu'il y a un certain nombre de conjonctures qui les ont rendues possibles. C'est une réalité. Ensuite, c'est-à-dire deuxièmement, l'incapacité à tenir compte de l'impact économique de la récession liée à la Covid. L'incapacité à gouverner, à anticiper. L'incapacité à penser son identité dans ses frontières et dans les frontières européennes. Oui. C'est facile, effectivement, que quand on ne développe pas ou quand on ne prend pas suffisamment en compte le principe de souveraineté, de porter la responsabilité ailleurs. Je termine. Troisième idée, qui est une idée à peu près simple, c'est que les responsables politiques qui sont au pouvoir depuis très longtemps ont failli à montrer leur volonté de s'approprier les sujets dont il était question. Dernier point, et après je vois qu'on prendra la parole pour débattre, mais il y a quand même un élément qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que les partis d'extrême droite sont au pouvoir parce qu'ils font alliance avec les partis conservateurs. Pas les partis d'extrême droite en tant que tels. Vox en Espagne a fait une progression importante, mais elle est minoritaire. Chega au Portugal a fait une augmentation, il est à 18%, mais il n'est que minoritaire. Les démocrates.
Mais ça monte.
Ça fait 20 ans que le Rassemblement national est en augmentation. Bon, bah, si vous voulez 20 ans ou 30 ans.
Ah non, je maîtrise mon sujet.
Je suis pas
le plafond vert. Il commence.
Je maîtrise aussi le mien. Je vous dis qu'on n'a pas la même vision des choses. La réalité, c'est que les partis d'extrême droite et les partis conservateurs sont en train de se liguer. Et donc, c'est logique que la droite bascule en Europe. Je vais vous dire, au Parlement européen, quelle est la réalité des choses ? Il y a 178 membres du Parti populaire européen. Le Parti populaire européen va perdre des électeurs. En l'occurrence, dans le dernier sondage, moins un. Je vous rappelle qu'on va avoir plus de parlementaires européens, parce qu'on passe de 705 à 720. 79 à 80 pour la France. Par contre, les partis d'extrême droite gagnent au minimum 15 à 30 députés. Donc la vraie question, c'est qu'il y a un jeu de bascule, et c'est pas dans le déni, parce que c'est très beau de crier à l'extrême droite. Je termine. Les partis d'extrême droite aujourd'hui sont une partie de la droite traditionnelle d'hier.
Je vais vous citer une phrase de Camus pour répondre à tout ce que vous avez dit. Camus avait dit « Mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde ». C'est-à-dire que vous faites un constat, mais je pense que vous êtes dans le déni, mais c'est un débat. Pour vous, c'est juste un jeu d'écriture, un rassemblement de l'extrême droite avec la droite conservatrice. Vous niez Le diagnostic. Le diagnostic aujourd'hui, vous parlez du Portugal, j'ai écrit ce matin deux articles pour la presse allemande et la presse espagnole. Je vais vous dire quelque chose. Vous dites, la corruption, c'est vrai, fait partie. Mais le point central au Portugal, c'est l'immigration à contrôler. C'est le point central de tous les sondages au Portugal, une semaine avant les élections. Là, vous voulez à tout prix, la droite et la gauche, ils sont dans le dîner depuis 30 ans. Ils ne veulent pas admettre que l'immigration incontrôlée, je ne parle pas d'immigration, les gens qui viennent étudier, travailler, sont les bienvenus, ils nous aiment, on les aime, sont les bienvenus. Les gens qui ne nous aiment pas, ils sont nombreux. Et donc, on ne veut pas admettre ce phénomène de société d'une immigration incontrôlée et de l'insécurité à tous les étages. Vous voyez en France, il est l'insécurité à tous les étages. Et tant qu'on n'a pas ça, eh ben on prêche, je le dis une nouvelle fois, on prêche dans le désert. Je pense aujourd'hui, les Français et même les Européens attendent de leur gouvernement quoi ? Une politique de maîtrise du flux migratoire. Deuxième chose, ils ont besoin aussi que l'Europe donne des perspectives, fait un dessin à tous les Européens, comment ils vont affronter le monde. On va aborder tout à l'heure ce qui se passe en Ukraine, en Russie, bien entendu. C'est une menace pour le monde aussi. Les gens veulent se replier sur eux-mêmes. Je pense, les hommes de droite comme de gauche ne font pas rêver les gens. Par le passé, font rêver les gens. Et tant qu'on ne fait pas rêver les gens, on passe dans le désert.
Je vous écoute, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire, en fait.
Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, monsieur? Je peux me développer.
Je ne comprends pas votre argumentation. Je ne dis pas autre chose que vous. Je dis juste. Bon, alors. Je dis ce que je veux dire, et après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit.
Dans le micro.
C'est le principe du débat. Je ne nie pas le fait de l'extrême droite. J'essaye de comprendre le fait le même d'extrême droite dans sa globalité européenne pour essayer que vous compreniez que l'extrême droite est forte aujourd'hui car une partie des partis conservateurs traditionnels n'existent plus. Et pourquoi est-ce que
c'est faux? Mais je ne suis pas d'accord avec vous.
C'est complètement faux ce qu'on dit.
On est d'accord. L'efficacité au pouvoir.
On est d'accord, mais on est
donc c'est faux.
Mais c'est vrai.
On va arrêter de casser le thermomètre.
Pourquoi est-ce que les Républicains ne pèsent plus que 5%? Parce qu'une partie des votants qui étaient autrefois des votants conservateurs votent dans les partis.
Mais pourquoi ils votent?
Mais regardez les causes et non pas les conséquences.
Mais lesquelles?
Nommez
les choses. Nommez les choses, mon ami.
Mais moi, cher ami, je nomme les choses depuis sans doute tout le temps.
Depuis
plus longtemps que vous
dites ça. Mais cher ami,
le fait de nommer les choses n'empêche pas l'extrême droite d'aller au pouvoir.
C'est l'inopérance des partis traditionnel au pouvoir.
Bien sûr.
Vous êtes inefficace. Je dis vous, pas un tutu personné.
Ouais,
mais il y a une inefficacité des partis au pouvoir depuis des décennies. Et donc il y a un ras-le-bolisme des citoyens européens qui veulent mettre des gens qui n'ont pas essayé encore.
Je ne dis pas le contraire. En 4 ans, l'Union européenne, les chiffres de cette semaine, l'Union européenne a créé 4,9 millions d'emplois. En 4 ans. 4,9 millions d'emplois. Vous savez qui a occupé, je cite l'Union européenne, ouais. C'est pas mon interprétation. Je vous donne les chiffres. 75% de ces emplois sont occupés par des gens qui n'habitent pas l'Europe, ouais. Qui viennent d'ailleurs. Donc si vous voulez, viennent d'ailleurs. Quand je dis c'est des étrangers, on les ramène, pourquoi on les paye très mal, problème de sécurité et de travail. Donc on se retrouve, comme en France, j'ai écouté le président des parlementaires de la majorité présidentielle, qui a dit, vendredi, que j'étais sur CNews pour commenter ce qu'il a dit, il a dit, oui, nous allons toujours accueillir les étrangers. Mais promis, il ne dit pas comment il va faire pour les 5 millions de Français qui sont au chemin. Accueillir, on veut accueillir, il n'y a pas de souci. Les gens qui nous aiment sont les bienvenus.
Très bien d'accueillir.
Voilà.
Oui,
les réfugiés politiques,
c'est facile.
On s'est engagé de les accueillir. Bien entendu, les étudiants qu'on accueille, ce sont les relais de la France de demain. Il faut les accueillir, ceux-là. Mais seulement l'incapacité de la majorité présidentielle, de l'opposition républicaine, de gauche comme droite, ils sont incapables de voir que les Français n'en veulent pas.
On les voit dans les sondages.
Il est 10h34 précisément. Si vous voulez intervenir, 01 53 48 3000, il n'y a pas de problème. Je veux quand même qu'on avance. Fin de vie, vous savez quoi? C'est Emmanuel Macron qui se prononce en faveur d'une aide à mourir dans une interview qu'il a accordée à Libération. Alors ce projet sur la fin de vie, parlons-en justement parce que beaucoup sont contre. Et vous, quel est est-ce qu'il faut aider, accompagner à mourir, comme le propose Emmanuel Macron, même si cela, ça va susciter un gros débat et une grosse polémique surtout.
Déjà, c'est pas Emmanuel Macron qui propose l'accompagnement dans la fin de vie. Un certain nombre de responsables politiques, dont quelqu'un qui m'est proche, Jean Leonetti, le propose.
Il se prononce.
Oui, non, mais enfin, Jean Leonetti a fait une proposition de loi déjà en 2005 là-dessus. Hein.
Donc,
Emmanuel Macron n'a rien inventé. Par contre, qu'Emmanuel Macron s'empare de ces débats est courageux. C'est un débat courageux, c'est un débat sociétal qui. Emprunte à l'humanité de chacun d'entre nous face à la mort et à la mort de quelqu'un qui lui est proche. Donc moi, je pense que c'est une loi nécessaire. Elle doit être encadrée. Elle doit être particulièrement vigilante car il s'agit d'une question sociétale. Donc là, il n'y a pas de politisation. Encore une fois, je rappelle que la liberté de vote a été donnée à peu près par tous les partis politiques. Mmh. Il n'y a pas de polémique par rapport à ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le débat de société que cela va engendrer par rapport à notre...
Je veux dire, pardon.
Je vais marquer une
pause. Par rapport à notre société qui a toujours une difficulté par rapport aux questions de mort.
Allez, voilà. S'il vous plaît, je marque une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes.
Pas de polémique aucune. Hein.
Dans une poignée de minutes et je vous donnerai la parole, y compris au 01 53 48 3. Mais là, tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
10h41 avec Emmanuel Dupuis, avec Augustin Vargue et enfin avec Karim Maloum. Les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Juste prendre quelques auditeurs pour relever un petit peu la température. Fatima de Paris, bonjour Fatima.
Bonjour Adi.
Bonjour, bien. Merci à vous aussi.
Merci beaucoup et bonjour à pardon à vos invités. Qu'est-ce que je voulais dire?
Dites-moi.
Bon, voilà, ça prouve que j'ai mal commencé la journée.
Non, pas de souci.
Je voulais parler du rejet des citoyens, des politiques actuelles.
Oui, oui.
Et voilà, et ils s'accrochent à je m'entends, je ne sais pas pourquoi.
Bon, ça doit être à mon avis le retour, peut-être quelque chose comme ça. Bon, mais allez-y, nous, on vous entend très bien.
Et alors, les citoyens s'accrochent à un parti, c'est comme un noyer qui s'accroche à une bouée trouée. Donc, le FN ne va rien régler, ça c'est sûr. Mais quand tous les partis politiques réunis parlent de toute la journée, au lieu de régler les problèmes des Français, parlent d'euthanasie avec à la tête Romero qui est devenu le représentant des Français, avec l'inscription de l'IVG à la Constitution comme si on était à Kaboul, au lieu de parler des vrais problèmes sociaux. C'est tout à fait normal que les Français les rejettent.
Bon. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un dégoût.
Il y a un dégoût. Il y a des
milliers...
C'est
ce que disait Augustin aussi en même temps.
Absolument. Ouais.
Voilà. Ouais. Il y a des milliers de chrétiens qui ne sont pas d'accord pour l'euthanasie. Il y a d'autres, des musulmans, il y a des juifs. Donc, c'est toute une partie, une grande partie de la société...
Et vous parlez de la fin de vie.
Oui, la fin de vie.
De la fin de vie, qui n'est pas d'accord. C'est pas par peut-être par conviction religieuse, mais par, moi, c'est pas par conviction religieuse. Parce que j'ai vu sur des vidéos des assassinats assistés ou des meurtres assistés. Je dis pas, moi, la fin de vie. Et donc, c'est atroce. Mettre son parent dans un lit... lui dire au revoir, l'embrasser et le piquer pour comme un chien qui a la rage. Et encore, j'ai de la peine pour les chiens, pour les animaux. Donc, c'est tout à fait normal.
Donc,
comme s'il n'y avait pas de problème en France. Le seul problème, c'est l'euthanasie.
Alors, on va en parler. Merci, Fatima, pour votre intervention.
Elle est
effectivement...
Merci
à vous aussi, ma chère Fatima. je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. Augustin Vague, fin de vie.
Les débats de société, c'est un peu l'écran de fumée de l'inefficacité des sujets économiques.
Vous avez vu que Fatima a ramené ça aussi sur l'aspect religieux.
Donc, je pense, on essaye de créer du consensus,
les religieux,
comme sur l'IVG, où on essaye d'avoir un semblant de consensus sur la fin de vie, sur l'IVG, comme précédemment. Ce qui est très bien, l'IVG, tout ça, on peut en parler encore. Mais je veux dire, on fait des débats de société pour éviter de parler d'autres choses.
Au fait, ça me rappelle le débat sur le mariage pour tous, sur François Hollande.
Ça a mis presque une année et demie, puis il s'est retrouvé tout nu,
n'avait plus de majorité, et puis il n'a même pas pu se représenter, tout d'un coup Macron qui sort. Au fait, je pense qu'il faut discuter. Moi, je suis pour à la fin de vie, je le dis, je donne ma position, parce que les gens qui souffrent, ça. Mais pour moi, c'est pas les vrais sujets. Il faut un consensus dans la société.
Il y a déjà une loi léonique
qui l'actualiser.
Qui est inconnue.
Je pense que c'est de noyer le poisson une nouvelle fois. C'est de noyer le poisson une nouvelle fois. Face au drame qui nous guette, on voit une guerre en Europe. Moi, je vais enchaîner. On a une guerre en Europe. C'est un sujet important. Moi, personnellement, sur des questions militaires et diplomatiques, j'ai toujours fait confiance aux autorités. C'est normal parce qu'ils ont toutes les informations.
Ah ben, parlons-en.
Voilà. Nos services de renseignement, nos militaires, ils ont des informations qu'on n'a pas.
Parlons-en, justement, c'est le troisième sujet. Nous ne voulons pas assassiner la paix en Europe. C'est une déclaration de Fabien Roussel qui annonce qu'il ne votera contre le plan de soutien de la France en Ukraine. Eh bien, voyez-vous, les voix commencent à se faire entendre. Emmanuel Dupuis.
Bon, vous savez que c'est une question sur laquelle j'interviens régulièrement.
Oui.
Le débat est piégé.
Sauf que vous donnez la parole en premier.
Le débat est piégé d'emblée, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour que l'accord qui a été signé il y a deux semaines entre la France et l'Ukraine, des accords de sécurité pour 10 ans, c'est pas l'article 50 alinéa 1, c'est l'article 53. Donc, quoi qu'il arrive, si on vote cet article, il faudra revoter. Donc, ça me fait dire qu'il y a un piège. Le piège est d'autant plus fort que la question qui est posée, comme souvent dans les référendums, n'est pas la bonne. Là, la question qui est posée, c'est en gros, la question littéralement, êtes-vous d'accord pour signer, ratifier, Parlement, enfin Assemblée nationale et Sénat, un accord qui nous lie pour 10 ans, en matière de sécurité, 3 milliards d'euros de d'aide militaire supplémentaire et donc des garanties de sécurité. Or, dans les...
C'est là. Dans, et 10 milliards en moins, pardon, pour les Français. Hein.
Oui.
Corrélativement.
C'est le sous-jacent, c'est pas écrit tant que tel. Par contre, ce qui est écrit dans le texte, c'est en gros, si vous votez le texte, vous votez automatiquement l'adhésion, le principe de l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc, deuxième piège. Il y a un certain nombre de gens qui sont d'accord pour aider l'Ukraine, mais pas forcément pour l'avoir adhéré dans l'Union européenne si les conditions ne sont pas requises par rapport à l'acquis communautaire. Troisième piège, et je terminerai par là, le président a hystérisé volontairement le débat en y associant l'idée que si on signe cet accord, ça donnera l'impression que la France va aller plus loin en développant une ligne, enfin, en surpassant une nouvelle ligne rouge, une énième ligne rouge, à savoir l'intervention militaire sur place. Donc, de vous à moi, il n'y aura aucun consensus. Toutes les oppositions, pour l'instant, ont dit qu'ils s'y opposaient. Toutes, hein. Toutes. Ce qui me fait dire que le président a peut-être fait exprès pour essayer d'hystériser le débat en disant, regardez, c'est pas de ma faute, ce sont les extrêmes qui sont, pour certains, le parti de Moscou. Ça a été utilisé comme un leitmotiv lors de la campagne, le lancement de la campagne de Renaissance avec Valérie Ayer, qui a fait cette saillie historique qui fait bondir l'historien que je suis en mettant au même niveau Daliadi, Chamberlain et Le Pen et Orban. Quelle aberration, quelle inculture historique.
C'est inculture, c'est le terme.
Incroyable,
inculture,
incroyable. À ce niveau de responsabilité, c'est criminel. C'est... Et donc, ce qui me fait dire que le président est en train de piéger tout le monde en disant, regardez, malgré ma bonne volonté, c'est mes forces politiques qui refusent de soutenir l'Ukraine.
Je ne sais pas, il n'y a que la majorité présidentielle qui va voter cette aide.
Il y a des gens dans la majorité qui vont même pas la voter.
Je reviens à ce qu'elle a dit, Fabien Roussel, mais je reviens, on va revenir. Je lis ce qu'elle a dit. Nous devons dire à M. Macron que la France doit être la voix de la paix, faisant briller partout en France les bougies de la paix. Donc apparemment, Fabien Roussel, il veut allumer des bougies partout, et c'est comme ça qu'il se...
C'est la solution, les bougies.
Voilà, il va allumer les bougies. Au fait, ne pas aider l'Ukraine, il faut être clair. Ne pas aider l'Ukraine, oui. Militairement, financièrement, oui. C'est de laisser la Russie l'écraser. C'est clair. En fait, Fabien Roussel a choisi le camp de Poutine. C'est clair. C'est-à-dire que ne pas aider l'Ukraine, il faut l'admettre, si on ne le fait pas, l'Ukraine n'est incapable de faire toute seule, résister toute seule. C'est incapable. La Russie va l'écraser. Donc Poutine a choisi, Fabien Roussel a choisi son camp. Il a choisi Poutine.
Il a déjà écrasé.
Il a choisi son camp.
Je pense que l'Ukraine n'attend pas que l'aide de la France pour les aider. Quoi.
Il y a des aides de
beaucoup d'États. Donc la France, les 3 milliards, bon, c'est très bien. Après, moi, ce que je pense, c'est que C'est une erreur que fait Monsieur Roussel.
Emmanuel Dupuy.
Oui, non, mais j'abonde dans le point qui a été dit. Ne pas voter ce texte, c'est pas ne plus aider l'Ukraine.
Bien sûr.
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
C'est justement là le piège. C'est que ceux qui voteraient le texte seraient présentés comme ceux qui ne soutiennent pas l'Ukraine. Or, au Parlement européen, les communistes ont voté. Les dernières résolutions. Après, il faut vérifier si depuis 2 ans ils le votent. Il y a peut-être eu des évolutions. Même, vous savez, Monsieur Bardella vote au Parlement européen le soutien des 50 milliards qu'on a promis pour les 4 prochaines années à l'Ukraine.
Il vote quand il est présent
Quand il est présent. Ça a d'ailleurs valu quelques colibés de la part de Marine Le Pen en disant que la position que tu défends n'est pas forcément celle que nous on défend au Parlement français. Ça montre l'incohérence interne.
Parce qu'on a voté. On est dans les temps. C'est votant, les 50 milliards sont votés. Sur 4
ans. Elles ont été votées.
On est à l'heure pour. C'est bien. En plus, ça tombe bien, 10h50. C'est parti pour le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est pour démarrer cette semaine avec c'est Michel Taube. Michel Taube qui est éditorialiste, mais également aussi le directeur fondateur d'Opinion Internationale. Bonjour, mon cher Michel Taube.
Bonjour mon cher Adil Farkan et bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM.
Merci.
Est-ce que j'ai entendu une voix que je connais
Michel, c'est bien la mienne. J'ai bien reçu ton message.
Oui. Emmanuel Dupuis, le bien nommé Emmanuel Dupuis.
Exactement, le bien
salut
nommé.
Salut Michel, on se voit tout à l'heure.
Le bien nommé.
On débat tout à l'heure.
J'aime bien, tout se fait en direct. Vous avez vu, c'est classe la radio, j'aime bien. Hein, les rendez-vous manqués. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, et tout va bien.
Adil, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes au centre du cercle.
Ah, bravo.
Clochette.
Allez, je vous lance, vous avez décidé de nous parler du ramadan, c'est votre billet d'humeur. Allez-y.
Voilà. Bah, en fait, c'était pour souhaiter un très bon Ramadan Moubarak à tous les auditeurs de Beurre FM, pour dire que voilà, c'est une fête religieuse comme il y en a d'autres dans le calendrier de nos concitoyens. Donc, je voulais avant tout et surtout souhaiter un bon Ramadan à toutes et tous, à tous ceux qui le pratiquent et qui le respectent. Après, je voulais profiter également de cette fête pour dire deux choses, pour rappeler pour ceux qui en doutent, parce que malheureusement il y en a, que l'islam est avec le judaïsme, le christianisme, une religion de paix, une religion par laquelle on aime son prochain comme soi-même, et que tous ceux, parfois musulmans et parfois non musulmans, qui ne comprennent pas cela, ne sont pas dignes de représenter l'islam. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est pour former aussi un vœu. En France, nous avons beaucoup de concitoyens musulmans. 5 millions, 7 millions, peut-être oui. 10 millions, on ne peut pas le savoir.
8 millions.
Il n'y a pas de statistiques ethniques ou culturelles ou religieuses. En Allemagne, il faut savoir qu'on connaît assez précisément les religions auxquelles appartient chacun des citoyens allemands, parce que lorsque les personnes font leur déclaration fiscale, il y a une partie des impôts qui vont au financement des cultes. Et donc, chacun dit, ben voilà, moi je suis protestant, je suis musulman, je suis... Voilà. Donc, ça, c'est pas le cas en France. Mais je forme le vœu d'un grand contrat qui n'a pas encore été passé entre les musulmans de France et la République française, d'un grand islam de France. Beaucoup ont essayé de le faire, mais ça n'a pas marché. Un islam par lequel les musulmans seraient reconnus pleinement, évidemment, comme citoyens français, mais où en même temps, cet islam de France, notamment au niveau de ses dirigeants, serait parfaitement républicain et respectueux de la laïcité. Ce compromis historique n'a pas encore été trouvé, on en est malheureusement encore loin, on pourrait en donner plein d'exemples, plein de preuves, et ce pas en avant des deux côtés, il n'a pas encore été fait suffisamment, et c'est un chantier qui est devant nous, et qui est absolument indispensable si on veut maintenir la concorde et la paix civile dans notre pays. Mais bon, Ramadan est une fête, donc bonne fête à ceux qui le respectent. N'oubliez pas pour les élèves d'aller à l'école et de ne pas, sous prétexte du jeûne, ne pas faire vos devoirs. C'est très important de rester très très assidu, et surtout très bonne fête à toutes celles et ceux qui le pratiquent.
Merci pour ce billet d'humeur et bravo, et on se retrouve lundi prochain sans faute, mon cher Michel Taube.
Avec plaisir, merci à vous.
Partagez. Un petit mot juste sur la situation à Gaza.
En fait, rapidement, mercredi dernier,
parce qu'il faut que je rende l'antenne.
Mercredi dernier, Hamas a quitté la table de négociation. Les États-Unis mettent la pression, et surtout le Qatar menace d'expulser tous les dirigeants du Hamas s'ils ne reviennent pas à la table de négociation. Cette région a besoin de paix, a besoin d'être secouru, d'être aidé, mais le Hamas ne souhaite pas le faire, mais il faut mettre la pression.
Oui, mais c'est pas étonnant. Le Hamas, c'est pas surprenant. Bon,
Emmanuel.
Oui, alors, bien sûr, on est tous ici réunis à cette table pour appeler à la paix. Une bonne initiative, mais qui me prouve à quel point nous sommes dans une inaction impossible. Les États-Unis continuent d'armer Israël, et en même temps, ils font une action humanitaire, ce qui peut paraître aberrant parce qu'ils n'ont pas de pression possible actuellement sur Benjamin Netanyahou. Il y a maintenant un pont humanitaire.
Ça commence.
Non,
c'est timide, mais ça commence.
Il y avait même une grande manifestation ce week-end en Israël pour s'opposer au gouvernement d'extrême droite. Ça bouge beaucoup.
Mais ça fait des mois, des années qu'il y a des manifestations.
Parce que c'est un État démocratique, l'Israël. C'est normal.
Allez,
mais ça n'empêche pas la continuation de l'opération militaire. Non.
Merci à Emmanuel Dupuis. Merci également à Augustin Vargue. Mais aussi
merci à
Karim Baloum. À la réalisation, c'était Fodil. Merci à vous tous. Les programmes continuent. C'est Philippe Robuchon qui vous donne rendez-vous avec ABS et tous les programmes durant la journée. Et n'oubliez pas, ce soir, c'est Philippe qui prend le contrôle pour vous accompagner durant la période du Ramadan. À demain avec autant de plaisir.
Et on ne lâche rien surtout.
Voilà, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.